Bienvenue dans Plus proche de vous, une série de portraits musicaux exclusifs de personnalités francophones locales qui font bouger les lignes. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire.
Bonjour à toi Gérard Lévesque et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Une interview qui, je le rappelle, est fait partie de notre nouveau projet Plus proche de vous. Un projet soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. Comment ça va, Gérard, aujourd'hui?
Ça va bien.
Mais écoute, moi, je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir retracer ton parcours. Et quel parcours incroyable! Tu m'as envoyé ta biographie et il a fallu 2 pages pour remplir tout ce qu'il y avait à dire sur cette belle carrière qui est la tienne. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, Gérard, est-ce que tu pourrais te présenter dans les grandes lignes pour les auditeurs de Choc FM 105.1 qui te connaissent peut-être pas encore forcément et nous dire également d'où tu viens et où tu es né?
J'ai grandi dans la basse ville d'Ottawa où j'ai été bien actif dans les organismes communautaire. Dans ma 20aine d'années, j'ai déménagé dans la Côte-de-Sambre en achetant ma première maison, un petit bungalow, où je suis demeuré un autre 20 ans. Et depuis 30 ans, plus de 30 ans, je suis déménagé à Toronto pour 15 ans de temps au cours des dernières années. J'ai fait à chaque mois le lien avec mon bureau à Calgary, en Alberta, pour donner aux Franco-Albertains des services juridiques en français ou bilingues, dépendant des cas.
Justement, donc on reviendra un petit peu sur, enfin un petit peu beaucoup même sur ton parcours. Et toi, justement, la lutte linguistique, c'est quelque chose qui a été central, clairement, dans ta vie. Mais avant de revenir sur ce parcours professionnel, on va rester un petit peu dans ce début de vie, donc cette époque un peu d'enfance, tout ça. Est-ce que toi, tu te rappelles de bons souvenirs d'enfance quand tu étais petit? Alors, ça peut être des souvenirs d'enfance, de vacances, à l'école, en famille, avec tes amis de l'époque ou quoi que ce soit. Mais est-ce que tu as quelques anecdotes, justement, de souvenirs d'enfance qui te sont chers, là, quand je te dis ça, est-ce qu'il y a des souvenirs qui remontent dans ta tête?
Oh, j'ai bien aimé grandir dans la basse ville d'Ottawa. C'était, à ce moment-là, une majorité française. On voyait des institutions de langue française un peu partout. J'ai grandi, d'abord, au 208 rue Saint-André, la résidence de notre famille au coin Commodon et Saint-André. Et je me souviens, surtout l'été, je tirais dans une brouette mon petit frère et ma petite sœur pour donner le temps à ma mère de nettoyer la maison sans qu'on soit dans
ses pattes.
Dans ses pattes, oui. Alors, c'est des bons souvenirs que j'ai gardés. J'ai été bien actif au PATRO, qui était un centre de jeunes francophones dans la basse-ville d'Ottawa. Un bout de temps, j'ai même servi la messe en face au couvent des religieuses, qui est devenu l'ambassade de Chine à Ottawa.
Oh, c'est intéressant,
ça. Un immense monastère, un édifice assez imposant. Alors, la Chine, en achetant ça, gagnait la compétition pour quel pays aurait l'ambassade la plus imposante.
Et justement, on parle toujours de cette période un petit peu d'enfance, de la jeunesse et tout. Est-ce que quand toi, tu étais petit, Gérard, tu te voyais déjà dans ce monde du droit, de combattre, avoir des principes et de tout faire pour se battre pour certaines valeurs? Parle justement de du français ici au Canada, parce qu'on est quand même en minorité, on ne va pas se le cacher. Mm-hmm. Encore plus, nous ici, en étant à Toronto, on le ressent encore plus. Peut-être qu'à Ottawa, où c'est peut-être un peu plus ouvert sur le bilinguisme, c'est vrai qu'ici à Toronto, on sent qu'on est quand même en situation minoritaire. Mais pour revenir à cette période d'enfance, est-ce que quand toi, tu étais petit, tu avais déjà ce côté un petit peu « Oh ouais, je vais défendre mes camarades, un peu le délégué de classe, un peu tout ça ?» Ou alors, pas du tout, tu te rêvais peut-être policier, pompier, vétérinaire. Je donne toujours des exemples de métiers plus ou moins classiques, mais c'est des métiers qui ont tendance à faire rêver un peu quand on est petit. Pilote d'avion ou quoi que ce soit. C'était quoi ton rêve quand tu étais petit à toi, Gérard?
Bien, j'ai pensé très vite au droit. Au droit dans 2 sens. Le journal, le droit, et le droit dans le domaine de la justice. Au niveau du journal, bien, j'ai été petit porteur du journal Le Droit dans la basse ville. Il y avait des circuits où c'était assez pesant de mettre sur notre dos un sac de journaux parce que la basse ville, à ce moment-là, était en majorité française. Alors, dépendant quelle rue on avait à marcher pour livrer à chaque jour de la semaine l'exemplaire du journal. Je suis allé aux 2 écoles françaises pour les garçons, parce qu'à ce moment-là, il y avait des écoles séparées différentes pour les filles et les garçons. De la maternelle jusqu'à la sixième année à l'école Gig et de la septième et huitième année à l'école Brébeuf. Et ces deux institutions qui ont été défendues par nos grands-mères à la pointe des épingles à chapeau.
Eh oui, Gig, ça me disait quelque chose justement.
Au temps du règlement 17.
Ouais, c'est ça.
Alors, j'ai grandi dans ces murs-là. L'édifice de l'école Brébeuf n'est plus là. Il a été remplacé par une coopérative Parc Beau-Soleil, coopérative d'habitation. Mais l'école Gig, l'édifice est encore là.
Mais il me semble que tu peux plus accéder aux marches, il me semble. Maintenant, il n'y a pas quelque chose comme ça. On m'avait raconté l'histoire que les marches en tant que telles, tu ne pouvais plus les monter. Il y avait comme un genre de portail. Et tu ne pouvais plus accéder à ces marches, justement. Ah. Il me semble avoir entendu une histoire comme ça.
Je ne suis pas au courant de ça.
Okay.
Pour aller les visiter depuis qu'ils ont transformé l'édifice en résidence de personnes âgées. Mm-hmm. Je ne me trouve pas assez vieux pour ça. Mais ça m'a tout le temps impressionné de voir des anciens de l'école qui étaient bien impliqués dans la communauté et dans la revendication de nos droits, de voir que c'était des locaux qui avaient servi, qui faisaient partie de notre histoire franco-ontarienne. Aujourd'hui, on enseigne plus l'histoire que dans mon temps. Moi, j'ai été chanceux de connaître des gens qui m'ont donné beaucoup de leur temps, entre autres Séraphin Marion, quand il était à sa retraite, pour me parler de l'histoire franco-ontarienne, parce que dans mon temps, on n'apprenait pas l'histoire franco-ontarienne. Ça a été développé par après. Le curriculum de la province, jusqu'à l'avènement des écoles de langue française, reconnu par la loi en 1968. Mais le curriculum des écoles avant, on apprenait beaucoup plus l'histoire britannique. Même au secondaire, c'était beaucoup plus British Poetry and Prose, ainsi de suite. Alors, il n'y avait pas encore ce mouvement-là vers les racines franco-ontariennes dans tous les domaines.
Alors, tu disais que même déjà petit, le droit, c'est quelque chose qui t'intéressait comme ça. Comment tu l'expliques? Comment t'arrives déjà jeune à te dire « Ouais, moi, je sens que je serais quelqu'un qui va être capable de mener des luttes, qui sera capable d'accompagner des gens avec leurs combats et surtout ce sentiment peut-être que la justice, elle est là justement pour régler les problèmes de la société et qu'il y a des choses à faire. Comment tu l'expliques, Gérard, cette passion peut-être limite? Je sais pas comment tu l'expliques.
J'ai côtoyé très vite des gens qui m'ont influencé. En face de chez moi, il y avait l'avocat Louis-Vincent. À un coin de chez moi, il y avait l'avocat, j'oublie son nom maintenant, mais c'était un autre que j'avais bien connu. Et à quelques maisons de chez moi, j'ai connu un type de docteur qui avait été dans les batailles contre le règlement 17 dans la région de Windsor. Au temps où c'était beaucoup l'évêque Fallon qui contrôlait le diocèse, qui encourageait le gouvernement à penser ce règlement anti-français-là, mais qui voulait que les paroisses fonctionnent en anglais. Alors, ça a fait beaucoup de choc avec... Alors, le docteur Damien Saint-Pierre était une des figures de cette bataille-là dans le Sud, et par coïncidence, il est venu s'installer à quelques maisons de chez moi. Alors, c'était une figure assez intéressante. Il m'avait remis un manuscrit qu'il avait écrit sur l'histoire qu'il avait vécue. C'était une petite brochure destinée aux jeunes franco-ontariens qui n'ont pas vécu ces années ou ces luttes, ces années de lutte et de gloire, quelque chose comme ça. Et j'avais dévoré ça très vite. Et je lui avais demandé, mais pourquoi est-ce que c'est pas connu? C'est pas dans les écoles, c'est pas connu. Il a dit, on m'a dit que c'était trop tôt pour publier ça, ça réveillerait trop de cicatrices dans la communauté. Ça pourrait créer des divisions. Mais si ça t'intéresse, je te donne le manuscrit et tu peux le publier si tu veux, si tu vois que ça peut être utile. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai ramassé, j'ai recueilli des annonceurs, des annonces payantes pour payer. Et j'avais des amis qui étaient à l'Union du Canada, une compagnie d'assurance, une mutuelle, qui était installée dans la basse ville aussi. Avant, c'était l'Union Saint-Joseph du Canada, et c'est devenu l'Union du Canada. Et on me permettait à l'occasion de faire imprimer des petites brochures comme ça, et c'en est une que j'ai publiée. Mais ça n'a pas été facile parce que quand j'ai grandi, les organismes franco-ontariens avaient ce qu'ils appelaient des conseillers moraux. C'était habituellement un curé, un religieux qui était bénévole dans l'organisme, qui faisait des conseils. Et quand je lui ai dit que j'avais fait des arrangements avec l'Union du Canada pour publier la brochure
de cette histoire,
Saint-Pierre, il m'a dit « Ah, je te déconseille de faire ça, c'est pas encore de l'histoire, attends à plus tard, et ainsi de suite. » Alors j'étais bien déçu de voir ça, parce que je dis
« À partir de quand, ça sera le bon moment? »
Dans ma génération, je suis le seul à lire ça, là, et on ne l'enseigne pas dans les écoles. Et ce réseau de leaders franco-ontariens se parlait beaucoup, les adultes. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes dans les organismes. C'était souvent quelques places réservées aux jeunes. Et j'étais le directeur général de l'Association de la jeunesse franco-ontarienne. Mais tous les organismes provinciaux, c'était en majorité mené par des gens qui avaient ce que j'appelais des barbes blanches. Et c'est à mon tour d'avoir ma barbe blanche. Alors, j'étais un peu déçu quand il y a eu des pressions indirectes sur l'Union pour diminuer le nombre de copies qu'ils allaient imprimer, parce qu'ils me faisaient une faveur pour ça. Mais j'ai réussi par après à réimprimer à quelques reprises avec d'autres annonceurs ce texte-là. Et un de mes amis l'a inclus dans sa biographie aussi. Alors, ça m'a inspiré très tôt des textes comme celui de Damien Saint-Pierre. Et j'ai dit, bien, moi, quand je vais être grand, je vais faire quelque chose. J'apprenais qu'il y avait eu des avocats franco-ontariens qui s'étaient battus jusqu'au Conseil privé de Londres pour tenter de faire connaître nos droits à l'éducation en français. Alors, quand j'ai fait à l'Université d'Ottawa mes deux premiers baccalauréats, j'aurais aimé aller faire mes études en droit.
Ah, parce que toi, tu as eu un baccalauréat en art.
J'ai un art et en philosophie.
Et en philosophie. Mais avec toujours cette vision de il faut faire quelque chose pour les francophones, il y a cette lutte à mener. Oui. Mais du coup, pourquoi avoir choisi de faire un baccalauréat en art, par exemple?
Bon, c'était ce qui était le plus près des études que j'avais faites auparavant. J'ai fait mon secondaire aux Trois-Rivières, au collège des franciscains. Et c'était parce qu'il y avait, pas loin de chez nous, dans Basseville, c'était la paroisse Saint-Anne, mais de l'autre côté de la rivière Rideau, il y avait une paroisse des franciscains. Et ils avaient un frère quêteur qui venait régulièrement frapper à la porte pour voir si on avait quelque chose qu'on pouvait leur donner. Et on est devenu, notre famille, bien amis avec eux, au point où ma mère leur demandait, mais qu'est-ce que c'est qui vous manque le plus? Parce que vous ne nous dites pas
exactement
ce que vous aimeriez
que vous avez besoin,
recevoir. Hein? Mais il dit, oui, les gens pensent des canettes de soupe ou ainsi de suite, mais ils oublient quelque chose qui serait bien utile, du sel. Alors, si jamais vous en avez une boîte de trop, on va l'accepter avec. Et c'est un retour qui a été fait quelques années plus tard. Mon père est décédé très jeune, laissant ma mère avec 6 enfants à la maison. Alors, elle est retournée sur le marché du travail comme infirmière. Mais c'était pas facile à ce moment-là. On n'avait pas d'école secondaire publique française. C'est venu en 68 avec la loi 140 et 141. Une des lois de ces deux-là a reconnu les écoles primaires françaises qu'on avait depuis plus de 250 ans en Ontario sans être reconnus dans la loi. Ils étaient tolérés, puis un bout de temps, ils étaient menacés par le règlement 17. Alors, ça m'a tout le temps intéressé d'aller faire des études en droit, mais je me suis aperçu après mes deux premiers baccalauréats que l'Université d'Ottawa n'offrait pas le droit des provinces anglaises, des provinces de common law. La faculté de droit offrait en anglais la common law, et en français, le droit civil, mais c'était limité au Québec, ou à travailler pour le gouvernement fédéral, pour les affaires québécoises. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir œuvrer en Ontario. J'avais des amis qui étaient dans le droit, mais on ne pouvait pas utiliser le français devant le tribunal. Ça a pris un organisme comme le mouvement C'est le temps pour dire, bon, mais c'est le temps que le gouvernement mette ses promesses de donner justice en français en vieur. Et avec des tactiques assez intéressantes, le mouvement C'est le temps et beaucoup d'autres au cours des années, comme l'Association des juristes d'expression française, ont aidé le gouvernement de l'Ontario à créer la justice en français. Mais ça n'a pas été facile. Alors j'ai décidé d'attendre que l'université puisse offrir la common law en français et ça a été fait avec... à la suite d'événements, les pressions du mouvement C'est le temps, mais aussi une rencontre assez intéressante que j'ai eue alors que je dirigeais l'Association canadienne française de l'Ontario avec le premier ministre de l'Ontario et le procureur général. Le premier ministre était William Davis, le procureur général c'était Roy McMurtry. Et je leur disais, bien, c'est pas juste que dans la capitale nationale et dans le restant de l'Ontario, on est pénalisé lorsqu'on signe son testament en français. Et regardez la conséquence. Et c'était, j'avais deux arguments très, très convaincants. La loi disait, bien, tous les documents déposés en cours doivent être en anglais seulement. S'ils ne sont pas disponibles en anglais, ils doivent être traduits en anglais et la traduction fait office de copie originale et est reconnue comme si c'était l'original. Et ça, c'est pas la bonne solution parce que la traduction n'était pas, même aujourd'hui, n'est pas vérifiée par la Cour quand on dépose un document.
Ça veut dire que la personne qui est en charge de la traduction pourrait éventuellement s'amuser à modifier ce qui a été dit et c'est pas réellement...
C'est ce qui est arrivé dans un cas parce que la Cour ne vérifie pas le texte qui est déposé en anglais d'une traduction d'un testament en français à ce moment-là. Alors, il y avait un exemple où le traducteur, dès que le traducteur signe une déclaration assermentée comme quoi il a fait de son mieux pour rendre une version anglaise du texte français, c'est accepté. Alors, comment argumenter ça que non, c'est pas la traduction qui devrait être regardée, c'est l'original français?
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, la loi... ne nous permettait pas de plaider en français, à moins que quelqu'un agisse comme traducteur. Et des fois, la Cour, qui était confrontée à un franco-ontarien qui se représentait lui-même, comme ça a été le cas pour les membres du mouvement C'est le temps, souvent, si le juge ne comprenait pas le français, et même s'il le comprenait, le dossier devait être consigné en anglais seulement. Alors, c'était les paroles prononcées par le traducteur, mais des fois, ça était un policier qui passait, francophone, qui passait dans le corridor au palais de justice, au moment où le greffier dit, bien, il nous faut pour la cour quelqu'un qui va traduire en anglais ce qui va se dire en français. Venez, même si vous n'êtes pas traducteur, vous êtes francophone, donc...
N'importe qui pouvait faire le job, en fait. N'importe qui maîtrisait les deux langues était capable de... Parce qu'on a l'impression que maintenant, c'est très carré, il faut des traducteurs, des gens qui sont officiellement déclarés comme étant traducteurs, certifiés, ouais, c'est le mot que je cherchais. Mais là, si c'est n'importe quel gars qui passait prendre un sandwich et qui est passé, « Ah, tu parles français ? Ouais, bon, écoute, mon gars, viens par là, on a besoin de toi. »
Oui. Alors, mon premier exemple, c'était de montrer que dans la traduction, il y avait quelque chose qui était très dispendieux. C'était soit un chalet ou quelque chose qui avait été donné à quelqu'un d'autre dans la traduction.
Ah ouais.
Alors, comment corriger ça alors qu'on ne pouvait même pas le faire en français? Alors, ça a fait réfléchir le premier ministre et le procureur général. Mais l'autre raison pour reconnaître enfin la signature en français des testaments, c'était de dire, bien, l'Ontario ne peut pas être plus britannique qu'au Royaume-Uni, qui a reconnu dans la loi de Westminster, et voici le texte, une langue autre que l'anglais pour les testaments. Et c'était au Pays de Galles.
Mm-hmm.
Alors, ça l'a impressionné beaucoup, le premier ministre, qui a dit, avec le procureur général, oui, on va...
considérer l'idée un peu, ouais.
Considérer comment faire ça, mais on est certain que ça va nous prendre une nouvelle génération d'avocats qui vont apprendre la common law dans les deux langues pour pouvoir donner des services en français ou dans les deux langues. Et on va vous aider à créer une association avec les francophones et les anglophones qui voudront faire ça. Alors, le gouvernement a pris, a gardé sa parole du procureur général pour une décennie, a donné des subventions au début à l'Association des juristes d'expression française qu'on a créée.
Et dont a été aussi le président à un moment donné, le directeur général des juristes d'expression française de 91 à 2001.
Oui, une décennie, j'ai été à la tête de l'organisme. Alors, j'ai participé à toutes les discussions en faveur et contre l'utilisation des deux langues dans le domaine de la justice. Ça m'a fait connaître des gens un peu partout en français à travers la province. Dans les grands centres d'Ottawa, Toronto, Sudbury, des fois, on regarde juste notre communauté, mais il y a beaucoup de petits centres où il y a des gens qui attendaient qu'on puisse convaincre le gouvernement d'étendre les projets pilotes à leur zone. On fait encore aujourd'hui des progrès vers l'utilisation du français dans tous les domaines, y compris dans le domaine de justice. Mais il en reste encore beaucoup à faire.
Alors justement, cette anecdote, cette histoire que tu me racontes, ça me fait penser que ça, c'est une belle perche pour la première chanson qui s'appelle « Le début d'un temps nouveau ». Oui. C'est une chanson de René Claude. Est-ce que tu peux nous expliquer, Gérard, pourquoi cette chanson, elle fait partie de ta sélection musicale? Pourquoi tu voulais qu'elle intervienne, cette chanson?
Bien, au début des années 70, j'étais le directeur général de la jeunesse franco-ontarienne, puis on tenait un congrès annuel. Et je pense que c'est en 1970 qu'on a utilisé comme thème « C'est le début d'un temps nouveau ». À ce moment-là, René Claude était très populaire auprès des jeunes. Et on sentait que notre génération s'en venait en grande partie avec des idées neuves, avec beaucoup d'enthousiasme, et que ce serait bien différent de ce qu'on a vécu auparavant. Alors, ça a été intéressant. On a eu comme interprète au congrès Ginette Renault. Ça a été à l'école secondaire André Laurando à Vanier. Depuis ce temps-là, les jeunes ont continué d'être actifs dans la francophonie ontarienne, mais sous différents vocables, parce que les jeunes aiment souvent faire leur propre empreinte et pas toujours continuer l'organisme des générations précédentes. Moi, j'ai continué comme directeur général la JFO, l'Association de la jeunesse franco-ontarienne, qui avait été créée en 1949. Mais après moi, d'autres ont préféré refaire des structures à partir de zéro. Et...
Parce que des fois, c'est plus simple aussi, je pense, de reprendre quelque chose de zéro que de récupérer le bébé, entre guillemets, là où il est, et essayer de l'amener vers là où on voudrait, parce que ça va dépendre de plein de choses, alors que si on reprend quelque chose à zéro, on est plus ou moins maître de là où on va amener le projet. Ouais. Alors que quand on récupère un truc en cours, y a quand même le passé à prendre en considération, les avis des gens qui ont déjà amené ce projet jusqu'à présent, pour pouvoir prendre des décisions sur l'avenir. Des fois, c'est plus compliqué que juste se dire, écoute, on a des bonnes idées, fort de ce qui se passe déjà et ce qui a été mis en place. Peut-être que si on faisait ça de notre côté, à notre sauce, entre guillemets, on arriverait peut-être plus rapidement à des objectifs, en fait.
Oui, mais Nathalie, des fois, c'est bon d'avoir des adultes qui se souviennent de leur temps de jeunesse et qui vont, parce qu'ils sont en affaires et ou qu'ils ont les moyens d'aider aujourd'hui, donner un coup de main financier pour aider les structures actuelles. Alors, ça fait chaud au cœur quand les adultes viennent aider les plus jeunes, mais aussi que les plus jeunes se souviennent, avant nous, il y en a eu d'autres qui ont fait le même combat. Ils n'ont pas eu toutes les victoires qu'on aimerait avoir, mais maintenant, on va essayer de poursuivre l'œuvre qu'ils ont commencée.
Justement, en parlant d'œuvre, on va écouter un extrait de cette chanson, « Le début d'un temps nouveau » de René Claude.
C'est le début d'un temps nouveau. La terre est à l'année zéro. La moitié des gens n'ont pas 30 ans. Les femmes font l'amour librement. Les hommes ne travaillent presque plus. Le bonheur est la seule vertu. C'est le début d'un temps nouveau. Nous voilà devenus des oiseaux. Et dans les cumulus du tombeau, ceux du ciel et ceux du cerveau, les couleurs se mêlent sur la peau. C'est le début d'un temps nouveau. On commence à se parler en peine, on commence à parler doucement, à se dire je t'aime sur je t'aime. Et ça donne les plus beaux enfants, oh. Et ça donne les plus beaux enfants, et ça donne les plus beaux enfants. On connaît les détours du tour du monde. Des yeux de cinérama, nos âmes sont devenues des ballons sondes, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas, et l'infini ne nous effraie pas. C'est le début d'un temps nouveau, la terre est à l'année zéro, la moitié des gens n'ont pas 30 ans, les femmes font l'amour. le bonheur est la seule vertu, c'est le début d'un temps nouveau.
Donc voilà, c'était un court extrait de cette chanson, Le début d'un temps nouveau de René Claude. Alors justement, on en est à ce moment où tu fais des rencontres intéressantes, tu te rends compte qu'il y a plein de choses à faire. Comment tu entres dans le monde du droit exactement? Parce que tu le disais, toi tu as étudié, donc tu as 2 baccalauréats, un en philosophie, un en art. On est loin à ce moment-là de l'examen du barreau, clairement, on n'y est pas encore. Comment dans ta tête ça s'assimile, toutes ces idées? Tu dis ok, il y a vraiment quelque chose à faire maintenant. Je sens que la lutte, elle est prête à continuer et je pense que j'ai ma pierre amenée à cet édifice. Comment tu dis, ok, je vais vraiment devenir, je vais vraiment faire du droit, je vais vraiment être avocat et je vais passer les concours du barreau? Parce que dans l'imaginatif, dans l'imaginaire des gens, il y a toujours ce truc de waouh, c'est un concours tellement super dur à passer que faut vraiment le vouloir. On le passe pas juste en disant bon, au pire j'aurai un plan B dans ma vie. C'est quelque chose que quand on le fait, on travaille, on bûche beaucoup pour être prêt pour justement ce concours. Comment toi dans ta tête ça s'assimile toutes ces idées puis tu dis ok je vais le passer? Parce que non seulement t'as le barreau de Toronto depuis de nombreuses années, mais t'as aussi passé le barreau de l'Alberta. Tu étais membre du barreau d'Alberta de 2005 à 2017.
Oui. Et à ce moment-là, on devait être membre du barreau dans la province où on veut offrir des services juridiques. J'ai continué, après avoir terminé ma membriété du barreau de l'Alberta, à donner des services en français, des services juridiques en Alberta, grâce à un accord pan-canadien entre les ordres professionnels de juristes qui ont enfin eu une entente nationale où c'est possible pour un juriste d'une province de travailler dans l'autre province, mais sous certaines
conditions spéciales.
Évidemment, ça ne doit pas diminuer les compétences requises pour donner les services.
Parce que c'est vraiment très différent d'une province à l'autre, les lois peuvent être très différentes, c'est pour ça qu'on demande...
Mais au niveau fédéral, c'est les mêmes lois. Alors, dépendant du domaine du droit dans lequel on se spécialise, c'est plus facile, il y a moins de différence d'une province à l'autre. Par exemple, dans le domaine des successions, les testaments, par exemple. Il y a une petite différence, il faut surveiller ça de province en province.
Mais par exemple, quelque chose qui va être comme la criminalité de manière générale, un homicide, par exemple?
Il n'y a qu'un code criminel pour tout le Canada.
Voilà.
Contrairement aux États-Unis, où le code criminel n'est pas fédéral. Qui est un crime aux États-Unis... dans un État, peut ne pas être un crime dans l'autre État. Et c'est pour ça, des fois, dans les nouvelles qu'on voit en provenance des États-Unis, on voit certaines accusations déposées par un État. Et il y a des explications que, c'est différent pour cet État-là au niveau de la procédure, au niveau du droit substantif.
C'est incroyable, ça, mais par contre, le Canada, non. Il y a des choses qui sont fédérales et ça restera fédéral, qu'on soit à Vancouver ou à Halifax, les personnes encourent les mêmes choses.
Oui, et c'est pour ça que c'est surprenant combien de temps ça nous a pris à gagner l'utilisation du français en matière criminelle.
Et oui, parce que c'est les mêmes lois partout, mais du coup, c'était plus compliqué.
La première loi sur les langues officielles en 1968 disait que les procédures criminelles en français allaient être possibles dans les provinces au fur et à mesure que les provinces accepteraient de rendre les procédures civil pour les droits de la province en français. Alors, la plupart des provinces ont dit, on a juste à ne pas rendre les procédures civiles en français, puis on va bloquer le fédéral qui veut nous imposer d'utiliser en matière criminelle le français. Alors, ça nous a pris beaucoup de pression sur le fédéral pour revenir dans la législation fédérale avec, et surtout dans le code criminel même, avec tout un chapitre sur les droits linguistiques. Et même là, ça n'a pas été suffisant pour revenir régulièrement pour modifier et faire des pressions pour que le fédéral non seulement passe des lois, mais passe en conséquence des nominations de juges bilingues aux tribunaux supérieurs. Parce que les tribunaux supérieurs, c'est le fédéral qui nomme les juges. Les provinces nomment seulement les juges de la Cour provinciale. Et la Cour supérieure de l'Ontario, par exemple, et la Cour d'appel de l'Ontario, c'est des nominations fédérales. Il faut que le fédéral reconnaisse qu'on n'a pas besoin, on n'a pas droit à un pourcentage de juges bilingues. On doit avoir des juges qui sont compétents. Et la loi fédérale, tout comme la loi ontarienne et bien de lois d'autres provinces, ont statut d'égalité entre la version française de la loi et la version anglaise de la loi. Alors, de plus en plus, on devrait nommer des gens compétents dans les deux langues, parce que la jurisprudence, les décisions, ne sont pas limitées à la version française ou à la version anglaise de la loi, ou à des citations de jurisprudence en français ou en anglais. Non, tout ça peut être argumenté. On argumente le droit qui fait l'affaire de notre client. Puis ensuite, c'est décidé par un ou des juges, mais ils doivent être en mesure de considérer les deux langues. Et encore, il y a beaucoup de progrès à faire de ce côté-là. L'Ontario n'a pas eu de juge bilingue, juge en chef bilingue encore. D'autres provinces, comme le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, nous ont devancés de ce côté-là.
Mais est-ce que justement, c'est pas parce que c'est des provinces aussi où on se sent peut-être un peu moins minoritaire? C'est vrai que le Nouveau-Brunswick, c'est un peu bilingue comme province. Le Manitoba, on dirait que ça devient de plus en plus. J'ai l'impression que l'Ontario, on est vraiment quand même assimilé de provinces anglophones avec des noyaux très francophones. Il y a un noyau très francophone à Toronto, mais au milieu d'une masse de millions de gens, donc on a tendance à se dire « Oh, il y a beaucoup de francophones à Toronto !» Ouais, mais il y a beaucoup de gens à Toronto. Donc forcément, il y a une grosse communauté francophone, mais il y a une grosse communauté brésilienne, il y a une grosse communauté italienne. Il y a beaucoup de grosses communautés. Mais par exemple, dans l'Ontario, il y a aussi Sudbury. Il y a une grosse communauté francophone à Sudbury. Hearst, c'est aussi en Ontario, c'est une grosse communauté francophone. Donc, est-ce que justement, certaines provinces, pour elles, ça a été plus simple, même si la lutte a été compliquée et tout, mais je mets des gros guillemets, plus simple parce que dans l'esprit plus ou moins des gens, c'est plus une communauté bilingue, le New Brunswick, enfin une province plus bilingue, pareil pour le Manitoba, alors que l'Ontario tend quand même à être vachement anglophone.
Oui, bien, l'histoire est assez intéressante sur l'évolution des droits linguistiques au pays. C'est vrai qu'au Nouveau-Brunswick, la population francophone ou acadienne est environ un tiers de la population.
Total.
Oui.
Ouais, c'est beaucoup. Oui.
Le Manitoba a eu une histoire juridique incroyable parce que la majorité, au moment de la création de la province, à l'incitation de Louis Riel, la majorité était des francophones ou des métis. Et tellement que le premier ministre du Manitoba, à la formation de la province, ça a été une personne nommée par le gouvernement fédéral parce qu'il n'était pas intéressé à ce que la population élise un francophone. Mais le deuxième premier ministre a été le premier premier ministre du Manitoba et il était francophone. Le premier francophone à être élu. 20 ans plus tard, les politiques fédérales d'immigration avaient réussi ce qu'elles visaient, de rendre minoritaires, surtout dans l'ouest du pays, les francophones, grâce à des subventions données aux immigrants des îles britanniques qui voulaient venir. Ça coûtait moins cher à un citoyen de partir de l'Écosse, l'Irlande ou ailleurs au Royaume-Uni pour s'établir dans l'ouest. Ils avaient des subventions plus que si un Montréalais venait, par exemple, à la suggestion du curé Labelle ou de d'autres là, qui voulaient envoyer des francophones aux paroisses françaises de l'Ouest canadien. Ça leur coûtait moins cher de venir de l'autre côté de l'Atlantique.
C'est incroyable, ça.
Alors, 20 ans après la formation constitutionnelle du Manitoba, la majorité anglaise a enlevé illégalement le français dans les écoles, dans les tribunaux, et à l'Assemblée législative, il y a eu quelques cas de contestation, mais ils ne se sont pas rendus jusqu'en Cour suprême pour différentes raisons. S'ils gagnent à un niveau, mais ce n'est pas la partie qui gagne qui peut en appeler la décision. Et si l'autre partie n'est pas intéressée, mais le dossier ne va pas plus loin. Il faut recommencer avec un autre cas. Alors, ça a pris presque 100 ans avant que le Manitoba soit forcé par la Cour suprême du Canada à remettre le français dans les lois à l'Assemblée législative. Et ça a pris des gens, des militants, comme Georges Forêt et d'autres comme lui, pour amener des causes devant les tribunaux.
Alors, toi, tu as aussi été directeur de pas mal de choses. Directeur de Téléchef de 84 à 92. Directeur du centre de traduction des documents juridiques de 90 à 92. Direction générale des juristes d'expression française de l'Ontario 91-2001. Pourquoi à chaque fois, justement, t'engager à ces hauts postes, ou comment on te les a proposés, comment ça s'amène dans ta vie, dans ton parcours, parce que c'est des postes où t'es à la tête du truc et tu te dis, bah, mon sac à dos, il est lourd, quoi.
J'ai peut-être fait une frappe, une erreur de frappe sur mon texte biographique, c'est Téléclé.
Téléclé.
Parce que c'était à distance, la common law en français clé, C-L-E-F, common law en français, qu'on a publié grâce au Conseil canadien de la documentation juridique. Ce qui est arrivé, c'est que quand on a commencé à enseigner à l'Université d'Ottawa la common law en français et que je suis retourné sur les bancs d'école pour apprendre cette common law, en première année de droit, ma professeure de bibliographie et documentation juridique, je crois, Maître Berthiaume, elle était professeure à temps partiel parce qu'elle travaillait à Justice Canada. C'était une façon de commencer à bâtir le corps professoral de l'Université d'Ottawa que d'emprunter des juges pour qu'ils enseignent à temps partiel, d'emprunter des avocats de la pratique privée et aussi du gouvernement. Et à la fin de ma première année, elle a dit, bien, Gérard, tu as une expérience pour avoir été journaliste au droit. J'ai été journaliste au droit, on avait parlé tantôt, mais aussi j'ai été actionnaire du droit. J'avais une action.
Donc, tu es passé de petit gamin qui distribuait le journal dans les rues de Ottawa et finalement, tu as été jusqu'à avoir même une action dans ce journal.
Oui, je voyais quand j'étais jeune les presses du journal de droit avant qu'elles s'établissent sur la rue Rideau. C'était sur la rue Georges, je pense, au sous-sol de ce qui est devenu un magasin Giant Tiger. On voyait, quand on était jeune et qu'on s'en allait à l'école, on voyait les rouleaux imprimés journal. À ce moment-là. Bien, c'est toujours bon de s'inspirer de l'exemple des autres. Alors, pour créer le common law en français à l'Université d'Ottawa, on s'est inspiré de l'expérience des Acadiens du Nouveau-Brunswick, qui, encore là, nous ont devancés parce qu'ils sont un tiers de la population. C'était plus facile pour eux d'influencer...
Et puis de revendiquer le fait que ce soit important.
Oui. Ici, on est 50% des francophones hors Québec, en Ontario, mais on est éparpillés et on n'a pas autant d'impact qu'on pourrait avoir si on était concentré à un endroit ou dans une région. Il y a quand même des assises assez importantes. Mais c'est probablement ça qui a retardé l'objectif d'avoir la reconnaissance constitutionnelle pour la justice en français. On aurait aimé qu'avec le rapatriement de la Constitution au Canada, on puisse inscrire, comme ça a été le cas pour le Nouveau-Brunswick, dans la loi ultime du pays, le fait que l'accès à la justice devait être disponible dans les deux langues officielles. C'est pas encore fait. C'est fait dans les lois de la province, mais pas encore au niveau fédéral. Et ça va prendre des conditions gagnantes avant que ça revienne sur le tapis des politiciens.
Alors, on parle du français, forcément. Ça me lance toujours une perche pour cette deuxième chanson de ta sélection, Gérard. Ça s'appelle « La langue de chez nous ». C'est une chanson de Yves Dutheil. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi cette chanson, elle est chère à ton cœur? Pourquoi cette chanson a fait partie, tout simplement, de ta sélection musicale?
Bien, quand j'ai organisé les congrès, j'ai tout le temps cherché un titre du congrès qui pouvait avoir une signification locale. Et lorsque on a eu cette magnifique chanson de « La langue de chez nous » par Yves Dutheil, j'ai été frappé par le deuxième couplet où c'est écrit « C'est une langue belle à ceux qui la défendent ». Alors, pour les francophones et les anglophones bilingues réunis au sein de l'Association des juristes d'expression française Ontario, quelle belle chanson pour inspirer leur travail.
Ben, écoute, sur ces jolies paroles, on va tout de suite écouter un extrait de cette chanson, La langue de chez nous, d'Yves Dutheil sur les ondes de Choc FM 105.1.
Langue maternelle, le français. C'est une langue belle, avec des mots super. Elle porte son histoire à travers ses accents. Où l'on sent la musique et le parfum des airs, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent se prit dans une rame et qu'il en a gardé toutes les harmonies dans cette langue belle aux couleurs de Provence. Où la saveur des choses est déjà dans les mots. C'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même aux torrents qui charrient du tonnerre. polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si fécond. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas...
Alors voilà, c'était un court extrait de cette chanson, La langue de chez nous, d'Yves Duteuil. Alors du coup, on va continuer le parcours un petit peu de ta vie, Gérard. En 2005, tu deviens également membre du barreau de l'Alberta. Pourquoi avoir fait ce choix, alors que toi, à la base, tu viens d'Ontario? Pourquoi décider justement d'être un petit peu également présent à l'autre bout du pays? Parce que c'est vrai qu'entre l'Ontario et l'Alberta, il y a quand même quelques petits kilomètres, ça se fait pas à pied.
Ouais.
Pourquoi ce choix?
Ah, c'était une question intéressante. J'ai été membre du conseil de la vie française en Amérique et même président à un moment donné. Et j'ai eu...
Ça, c'était de 94 à 99, la présidence, ouais.
Oui, alors j'ai eu une initiation à toutes les communautés francophones, non seulement du pays, mais même à l'extérieur du pays.
Ouais, parce que je ne le connaissais pas, moi, ce conseil, conseil de la vie française de l'Amérique,
oui.
Donc le CVFA pour la version courte. Ça, c'est quoi exactement ce truc?
Ça n'existe plus. Ça a été remplacé par un secrétariat à la francophonie financé par le gouvernement du Québec et aussi par les organismes nationaux francophones. Alors, le conseil n'existe plus. Il a terminé ses activités au début des années 2000. Mais c'était au moment où les communautés francophones voulaient s'organiser au national, un des organismes où on pouvait avoir quelques représentants par province qui passaient non seulement une fin de semaine ensemble avec la grandeur du pays, c'était bon de tenir presque une semaine de rencontres où chacun pouvait expliquer qu'est-ce qui se passait dans sa province en détail, puis recevoir des suggestions des autres. Alors, je savais que l'Alberta, la communauté franco-albertaine, faisait face à bien des problèmes. Et lorsque mon épouse a été mise dans une situation difficile par son employeur, la compagnie SO a décidé de déménager de Toronto à Calgary, le siège social de la compagnie L'Impérial. Alors, j'ai dit, bien, moi, je pourrais...
passer le barreau en Alberta.
Oui, passer le barreau de l'Alberta et aider mes collègues-là, tout en continuant mon bureau
à
Toronto.
Parce que c'est possible d'avoir deux... Ouais. D'être membre de plusieurs barreaux dans un même pays, en fait.
Si on peut payer autant de cotisations, parce que chaque province, chaque ordre provincial veut être payé.
Et oui.
Alors, c'est double cotisation. Ouais. Il faut les assurance, il faut...
Ça engendre beaucoup d'aspects financiers, mais en soi, en tant que tel, d'un point de vue légal, c'est légal, c'est possible.
Oui, mais maintenant, avec l'accord que j'ai mentionné plus tôt entre les ordres de juristes, c'est possible, c'est plus facile maintenant pour un juriste de travailler dans les autres provinces. Alors, quand mon épouse s'est fait dire, bien, si tu refuses de suivre à Calgary le siège social, tu vas perdre ton emploi et ta pension va diminuer de 25%. Alors moi, j'ai dit, bien, ça ne vaut pas la peine de perdre ça et moi, je pourrais faire la navette. Alors, tous les deux, trois semaines, je prenais l'avion pour aller à mon bureau Calgary. Et là, j'ai couvert la province entière pour, entre autres, des testaments français, des procurations bilingues et faire des revendications linguistiques au nom de la communauté franco-albertaine. Alors, on peut, au Canada, facilement collectionner différentes identités. Alors, j'ai été Québécois de naissance parce que ma famille était à Hull au moment de ma naissance, mais même pour la garderie, j'étais déjà en Ontario et c'est mes études collégiales aux Trois-Rivières qui peuvent m'aider à dire oui, je suis aussi Québécois, je suis franco-ontarien, je suis franco-albertain et je suis même acadien parce que j'ai accepté pour plusieurs années de siéger au conseil d'administration de l'Université Sainte-Anne à Pointe-à-l'Église en Nouvelle-Écosse, qui est une petite université qu'on oublie souvent à l'extérieur du Québec, qu'on qu'on a dans chaque province, les institutions, qu'il faut les appuyer pour en profiter au maximum.
Alors, on arrive déjà à cette heure d'interview, ça passe trop vite quand on a un parcours comme le tien. Moi, j'aurais aimé qu'on rentre encore plus dans le détail de plein de trucs, mais du coup, ma dernière question, ça va être, Gérard, de tous les combats, de toutes les luttes auxquelles tu as pu participer dans ce parcours qui est quand même incroyable, comme je vous dis, c'est deux pages de biographie que j'ai pu imprimer, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur un parcours comme le tien qu'une heure d'interview, c'était pas assez. On aurait dû faire un triple épisode sur toi, Gérard. Mais de toutes ces luttes, quel est le souvenir peut-être le plus marquant de toute ta carrière? Alors, c'est dur, hein, d'en dire qu'un seul. Allez, je t'en donne deux, parce qu'on est sur la fin de cette interview. Deux trucs qui t'ont particulièrement marqué, que ce soit en bien ou en pas bien, mais des moments de ta carrière où tu te dis « waouh ». Et là, avec le recul, encore plus, tu te dis « ah ouais, ça, c'était vraiment des moments spéciaux dans ma vie. »
Deux. Alors, je pense au mouvement « C'est le temps » qui a été créé par un petit groupe de militants à Ottawa, sous la direction de Jacqueline Pelletier. On préconisait les termes de prison plutôt que de payer les amendes prévues pour les stationnements interdits ou les infractions au code de la route.
Incroyable.
On était tellement chanceux dans ce choix-là parce que ça a forcé le gouvernement à reconnaître plus vite l'accès à la justice en français. On faisait les manchettes régulièrement dans les journaux français comme anglais de la capitale, quand il y avait une personne, des fois un médecin comme le docteur André Lafrance ou d'autres, acceptait de passer une nuit en prison ou une journée en prison pour avoir ça. Alors, j'ai fait ma journée en prison aussi, mais moi, ça m'a pris 8 causes sur 5 ou 6 ans parce que l'appareil juridique voyait bien que c'était des causes politiques. Il ne voulait pas nous condamner parce qu'il savait que c'était pour coûter plus cher à la province quand, plutôt que de recevoir un montant pour une amende, ils sont obligés de nous héberger. Il faut d'abord nous transporter dans une wagonnette au centre de détention d'Ottawa-Carlton à ce moment-là. Mais il y a une franco-ontarienne de Sudbury qui avait également utilisé la même tactique. Mais dans la région d'Ottawa, on est 25 de l'Est de l'Ontario, surtout d'Ottawa, mais de l'Est de l'Ontario, plus un Québécois qui, par sympathie, a accepté la même tactique. Et ça a fait beaucoup de bruit. C'était le maire de la ville de Hull, qui est devenu ensuite ministre dans le cabinet de M. Bourassa, je crois. Alors, ces tactiques-là montrent que, des fois, il faut être ingénieux dans nos revendications. Si un argument ne passe pas ou pas, n'est pas prêt d'être accepté, il y a tout le temps quelque chose d'autre qu'on peut faire pour sensibiliser les pouvoirs publics à la nécessité d'évoluer avec le temps. Un autre exemple, je pourrais tirer un exemple des 24 ans où j'ai été juge suppléant à la Cour de petite créance de Toronto. J'ai eu devant moi des personnes de tout acabit qui étaient impliquées dans les petites créances. Et il y en a même un qui se faisait passer pour être avocat. Et quand j'ai découvert qu'il n'était pas avocat, je lui ai annoncé qu'il était pour être associé. Est-ce que j'entends ses causes? Parce que je savais que mes collègues ne savaient pas qu'il n'était pas vraiment un avocat. Alors, ça l'a mené, il a voulu contester ça et ça s'est retourné contre lui. Il y a eu une ordonnance de ne plus déposer de cause à moins d'avoir une permission d'un juge, mais aussi pour ses actions criminelles, il a fait de la prison. Alors, Melvin Deutsch, c'est la seule personne, je pense, que j'ai découragé à utiliser le français. Toutes les autres, j'ai encouragé les gens, même s'ils font un peu d'erreurs au début, qu'ils n'ont pas les bons mots, oui, d'utiliser leur langue maternelle pour l'obtenir. Mais lui, c'était évident, avec ce que j'avais découvert, que c'était une personne qui avait appris le français lors de ses jours dans les prisons au Québec et peut-être même au Nouveau-Brunswick et en Ontario. Et il est retourné faire des thèmes de prison en Ontario. Et si jamais j'ai le temps d'écrire ma biographie, ce sera un chapitre de voir ces tactiques, parce que les gens qui osent se présenter devant le tribunal prétendant qu'ils sont avocats ont beaucoup de culot, mais ils ont appris, des fois de la mauvaise façon. Lui avait appris plein de choses en prison, même aux États-Unis. Et quand j'ai fait ma recherche, c'était au début de l'Internet, j'ai découvert des cas assez spectaculaires aux États-Unis qui l'impliquaient.
Oui,
qui l'impliquait. Aux États-Unis, il y avait un jugement d'un juge. Quand on est admis dans un barreau d'une autre province ou d'un autre État aux États-Unis, c'est devant la cour qu'on comparait, et non pas devant l'ordre. L'ordre confirme qu'on a passé les examens ou ainsi de suite, mais c'est un juge. Alors, quand j'ai demandé d'être admis au barreau de l'Alberta, ils m'ont dit « Ah oui, mais la cérémonie va être en anglais ». Je dis non, le français, c'est une langue officielle des tribunaux. Moi, je choisis le français. Ils ont dit, on n'a pas de juge qui peut faire ça à Calgary. Mais je dis, moi, j'en connais à Edmonton. Je vais aller à Edmonton. Et j'ai comparu devant celle qui, maintenant, est la première juge francophone de la Cour supérieure de l'Alberta, Mary Moreau, qui était une des avocates, là, avant d'être juge, qui avait travaillé fort pour l'utilisation, la reconnaissance de l'utilisation du français en matière criminelle. Et elle m'a admis en français au barreau de l'Alberta. Mais ici, pour la Cour des petites créances, là aussi, on a fait beaucoup de progrès au cours des années. J'ai été avec quelques collègues francophones et anglophones bilingues en charge de rendre justice pour les petites créances durant 24 ans, à temps partiel. En français ou dans les deux langues officielles des tribunaux de l'Ontario ou en anglais, dépendant des cas qui sont devant nous. Et c'est tout le temps quelque chose qui fait chaud au cœur quand on peut dire on a été en partie responsable pour avoir changé une situation qui était incroyable avant, où les gens qui étaient qualifiés pour utiliser le français devaient le laisser à la porte de la cour avant que on réussisse à le faire reconnaître dans les lois de l'Ontario, que le français, au même niveau que l'anglais, c'est deux langues officielles des tribunaux de l'Ontario.
Mais écoute, merci beaucoup Gérard pour avoir pris le temps de revenir un petit peu sur ton parcours de vie. Comme je disais, on pourrait en parler encore des heures et des heures, parce que non seulement ton parcours est incroyable, mais aussi toutes ces luttes. Et on voit que, quand bien même ici, je le disais, à Toronto, on est en situation minoritaire, on a quand même cette chance d'avoir des services en français, et tout ça, c'est pas tombé du ciel. Et c'est grâce à des gens qui ont été passionnés, qui ont été têtus, qui ont été un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on leur a dit, en leur disant, tu sais, le français, le français, c'est quelque chose d'important. Et justement, cette lutte linguistique, je trouve qu'elle est belle et qu'elle a encore de nombreuses années devant elle, parce que la lutte, elle est loin d'être terminée. Le jour où on sera 50-50 égaux avec les anglophones dans toutes les provinces du Canada, je pense que là, la lutte, elle sera peut-être presque finie. Je pense qu'il y a encore plein de chemin, mais en tout cas, merci déjà pour tout ce que tu as pu faire à ton échelle. C'est quand même incroyable. Et surtout, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui, Gérard. C'était un plaisir.
Merci beaucoup, Nathalie.
C'était donc Nathalie Salmeron dans Plus proche de vous, un projet qui, je le rappelle, est soutenu par le Fonds canadien de la radio communautaire. À très bientôt, Gérard. Merci.
Merci.
Un peu plus haut, un peu plus loin. Je vais aller un peu plus loin. Je veux voir commencer là-haut. Garde mon bras et tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin. Je veux aller encore plus loin. Laisse mon bras mais tiens ma main. Je n'irai pas plus loin qu'il faut.
Encore un pas, encore un saut. Une tempête et un ruisseau.